Salut, c'est Nasser Zorgani, je travaille chez Paris 2024 au sein du programme des volontaires. Le programme des volontaires, qu'est-ce que c'est ? Que font les volontaires ? Quels sont leurs rôles, leurs missions ? Pour répondre à ces questions, parler du programme, parler de l'expérience volontaire, retrouvez-moi avec celles et ceux qui ont fait, font et vont faire les Jeux. Bienvenue dans l'uniforme d'un volontaire. Tel un avant-goût supplémentaire de ce qui vous attend aux Jeux cet été, nous sommes aujourd'hui dans un site exceptionnel puisque nous sommes dans un site de compétition installé au sein d'une des salles du stade Yves du Manoir, un stade emblématique dans l'histoire des Jeux mais aussi pour la compétition qui vous attend cet été pendant les Jeux Olympiques avec le hockey sur gazon. Mais plutôt qu'un long discours de ma part, pour en parler, nous sommes avec Antoine Berger, manager en charge du site et du sport, et également Julie Redoureau, coordinatrice des services pour le hockey sur gazon et un historien du sport, sociologue, professeur de l'Université de Franche-Comté dont il est le vice-président, mais également fondateur du CERU, du Centre d'études sur la recherche olympique universitaire. Éric Monin, merci d'être avec nous. Bonjour.
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 Antoine, est-ce que tu peux nous situer où sommes-nous précisément ?
On est au cœur de la ville de Colombes, collée à Paris, dans le stade mythique d'Yves du Manoir, qui accueillera, comme tu l'as dit tout à l'heure, la compétition de hockey sur gazon pour les Jeux olympiques de Paris 2024, du 27 juillet jusqu'au 9 août. Nous sommes dans un des bâtiments qui vient d'être construit dans le cadre de l'héritage et du développement des équipements sportifs du département des Hauts-de-Seine. Nouveau bâtiment qui, par la suite, accueillera, après les Jeux Olympiques, le siège de la Fédération française de hockey, ainsi que le club résident de hockey sur gazon et la Ligue. Donc le stade Yves du Manoir s'appelle aussi la plaine de jeu, où on a plus de 9 terrains de sport, que ce soit du foot, du rugby, on a un petit bout d'athlétisme. Et après les Jeux Olympiques, et déjà maintenant, on a du hockey sur gazon, avec 2 terrains de compétition et un terrain d'entraînement, puisque le site est également site d'entraînement.
Question un peu historique, avant d'embrayer avec notre spécialiste du jour. Qui est Yves du Manoir, Antoine ?
Alors, Yves du Manoir était un rugbyman du Racing Club de France, polytechnicien qui est décédé d'un accident d'avion qui a donné le nom au site. Mais Eric nous le dira mieux.
Alors, justement, Eric, quelle est l'histoire qui entoure ce stade d'Yves du Manoir ?
Oui, alors, il y a eu un certain nombre de tracasseries administratives et des mésententes avec la ville de Paris et le Comité olympique français. Et là, devant un petit peu les déboires du Comité olympique français, de Pierre de Coubertin, eh bien, le Racing Club de France propose de mettre à disposition un terrain de 16 arts du domaine sportif de Colombes, qui, je le rappelle, est un ancien champ de course hippique, pour ériger le stade olympique et recevoir les épreuves d'athlétisme sur une piste de 500 mètres de rugby et de football, ainsi que les cérémonies officielles. C'est que ce stade olympique de Colombes va de manière plus globale devenir la cité olympique.
On va rester un peu dans l'histoire, mais cette fois-ci plus l'histoire des Jeux. Quelles épreuves ont été organisées justement dans ce stade, Eric ?
L'architecte Louis Faure Dujarric, qui avait remporté à cette époque-là le concours architectural des stades olympiques, lancé par le Comité olympique français, eh bien, va imaginer ce stade olympique de Colombes, où va être organisée la gymnastique, on aura du football, on aura de l'athlétisme, on aura de l'équitation, on aura du lawn tennis, on aura du rugby et il y aura même une piscine et surtout, le premier village olympique.
Premier village des athlètes, mais je crois qu'on m'avait dit qu'il y avait aussi des concours des arts.
Alors effectivement, en 1912, le CEO dans cette logique anima sana in corpore sano, vous savez cet adage du 3e siècle après Jésus-Christ de Juvenal, c'est tout simplement...
Adage en latin qui veut dire en français...
Un esprit sain dans un corps sain. Il y aura des épreuves, notamment d'architecture, de sculpture, de peinture, de littérature et de musique. Et en 1924, eh bien, il y aura un concours des arts qui va débuter avec un grand exploit, notamment de Géo Charles, qui va gagner le concours de littérature et va obtenir le premier prix des Jeux Olympiques.
Alors là, on a vu son histoire, mais qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce stade d'innovant à l'époque ?
Ce qui est très intéressant par rapport à ce stade, c'est qu'en fait, il est desservi par voie ferrée, par tramway, par autobus, par automobile et par voie fluviale. On attend à cette époque-là 60 000 personnes, 20 000 places assises et couvertes en 2 tribunes, une tribune d'honneur, la fameuse celle qui reste, une tribune de marathon qui fait face de 10 000 places, et on va avoir 40 000 places debout et non couvertes disposées dans les virages nommés gradins populaires. On aura un gros tableau d'affichage pour la première fois, on aura un tunnel pour les athlètes, on aura surtout des haut-parleurs pour se faire entendre, et notamment des gradins en béton de la tribune, notamment la tribune d'honneur et la tribune du marathon.
Et quelle vie il a eu après ça ?
Alors, le stade de Colombes va organiser après les Jeux de 1924, notamment la finale de la Coupe du Monde de football. Il va recevoir 250 rencontres internationales, 42 finales de Coupe de France, 79 matchs de football de l'équipe de France. Et avec Paris 2024, eh bien, c'est une continuité qui s'installe ici, dans le stade Yves du Manoir.
Alors, comme l'a dit Eric, c'était le stade français avant que le Parc des Princes arrive ou que les grands stades aient été construits dans la région francilienne ou ailleurs en France. Et du coup, on a eu des rencontres du 5 Nations avant même que le 6 Nations existe en rugby. Et c'était aussi le théâtre du Racing 92, l'équipe de rugby, avant qu'elle se déplace à Paris La Défense Arena.
Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans le stade Yves du Manoir des Jeux de 24, Antoine ?
Et reste particulièrement ce qu'on appelle nous aujourd'hui la tribune historique, donc un des bouts du stade qui a été préservé, rénové, remis au goût du jour et aux normes actuelles pour pouvoir accueillir les équipes aujourd'hui, et notamment ce toit un peu particulier et mythique qui nous sort tout droit des ingénieurs de la Tour Eiffel.
On va revenir dans le présent et même dans le futur, un futur très proche cet été. Quelles épreuves nous attendent en termes de compétition olympique pour le hockey ?
12 équipes masculines et 12 équipes féminines vont s'affronter, réparties en deux poules de 6 par genre. On va avoir du coup les 24 meilleures équipes mondiales de la discipline.
Mais pour les néophytes que nous sommes, qui ne connaissons pas le hockey sur gazon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les règles, comment ça se passe une partie ?
Le hockey sur gazon, c'est plus de 30 millions de licenciés à travers la planète, plus de 140 pays inscrits à la Fédération internationale, donc c'est vraiment un sport global et un des sports collectifs les plus regardés pendant les Jeux Olympiques. Le hockey sur gazon, c'est, pour faire très simple, un terrain quasiment de la taille d'un terrain de foot ou de rugby où des équipes s'affrontent à 11 contre 11, où on a des changements permanents comme on peut retrouver au handball ou au basket ou encore au hockey sur glace. C'est un sport sans contact, issu de l'héritage britannique, et on retrouve même des traces du hockey sur gazon qui remontent à l'Antiquité. C'est un sport fun, jeune, rapide, très rapide et très intense, qui demande une discipline et une approche de la stratégie qui est très marquée et qui du coup est extraordinaire pour les spectateurs, que ce soit à la télé ou dans le stade, à regarder.
Mais avant de parler des Jeux et de ce qui va s'y passer en termes d'épreuves et de spectateurs, parlons un peu de ce qui se passe ici depuis vendredi, chère Julie.
On accueille du coup les activités test de hockey avec une journée les entraînements et ensuite 2 jours de compétition. Donc on a accueilli 9 équipes en tout, 4 équipes internationales qui participeront aux Jeux, 3 équipes internationales U21 et 2 clubs féminins ici dans le bassin parisien.
C'est quoi une épreuve test ? C'est quoi sa fonction, son objet ?
Donc une épreuve test, c'est vraiment pour tester toutes les opérations sportives ou sur le site de compétition pour se préparer aux Jeux. C'est d'autant plus important pour le hockey sur gazon parce qu'on n'a pas de compétition internationale. Donc c'est une occasion pour nous de former nos volontaires, nos officiels et tous nos membres du staff.
Là, vendredi, il y a eu des matchs amicaux, il n'y a pas eu de podium, donc qu'est-ce qu'on a testé précisément ?
Alors exactement, ce n'est pas une compétition qui compte dans le classement de la Fédération internationale, mais ce sont vraiment des équipes qui vont jouer un match, un vrai match de compétition, donc on teste vraiment tous les volontaires, ce qu'ils doivent faire en amont ou pendant le match. On teste aussi les officiels qui doivent prendre les statistiques du match, et aussi pour les arbitres, certains sont des arbitres européens qui vont pouvoir vraiment arbitrer sur un match international.
Et puisqu'on a parlé des volontaires, tu viens de le dire, qu'est-ce qu'ils ont fait vendredi, samedi, dimanche ? Qu'est-ce qu'on a attendu d'eux à la base et qu'est-ce qui s'est passé pour eux ?
Pour les volontaires, c'était surtout l'opportunité de découvrir le site, de découvrir ce qu'est une compétition de hockey au niveau international et vraiment leur mission précisément, concrètement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pendant les Jeux Olympiques. On va prendre un exemple, on a des ramasseurs de balles au hockey sur gazon qui sont extrêmement importants parce que dès que la balle sort de l'aire de jeu, le volontaire doit aller la remettre directement sur le terrain et rapidement parce que si ce n'est pas fait, ça peut altérer le match et le ralentir. Donc on a ceci, on a aussi des volontaires qui vont être responsables du service aux équipes, donc préparer les vestiaires en amont, être sûr que les athlètes ont tout ce qu'il leur faut avant d'entrer sur le match. On a aussi des volontaires qui vont suivre tous nos officiels présents, donc c'est les arbitres par exemple, donc tous les volontaires sont sur tous les volets de la compétition.
Merci beaucoup Julie, Antoine. Je reviens vers notre cher professeur d'histoire, Eric. On parle du programme des volontaires, c'est un programme emblématique des Jeux Il l'est devenu par la force des choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ?
Ce système, notamment des volontaires, a eu une évolution en 5 phases. La première phase, eh bien, de 1896 à 1936, c'est une phase où on accueille des scouts, on accueille des militaires, on accueille des sportifs amateurs qui viennent donner un coup de main, quelque part. Une deuxième phase, 1948 jusqu'en 1976, où là, on les nomme les bénévoles, qui sont désireux de contribuer tout simplement à la réussite des Jeux. Voilà, c'est un appel qui est fait. Une troisième phase, 1980, avec les Jeux de Lake Placid aux États-Unis, où là, eh bien, on recrute, on forme et on tombe maintenant dans les volontaires avec une gestion très claire à travers un cahier des charges, notamment établi par le comité d'organisation des Jeux olympiques qui ne sera pas encore paralympique. Une quatrième phase, 1992, où là, on va donner une définition du concept de volontaire olympique qui sera intégré pour la première fois au rapport officiel de 1992. Et enfin, une cinquième phase. Cette cinquième phase, eh bien, c'est une phase actuelle, bien évidemment, où tout simplement, eh bien, on a un programme très ficelé, où, comment dire, les personnes sont motivées, sont fiables, où on va même avoir, notamment dans le cadre de Paris 2024, quelque part, cette envie réelle d'apporter une certaine fierté aux volontaires, d'apporter aussi de nouvelles compétences, et même Londres 2012 les a nommés les artisans des Jeux.
Et si on veut revenir un peu sur l'histoire et l'évolution des programmes sportifs, en regardant un peu le hockey dans l'histoire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas sa première participation à Paris 2024. En effet, c'était un des premiers sports collectifs à être intégré au programme olympique. Il ne sera pas intégré au programme de Paris 1924. Et c'est ce qui a valu justement la création de la Fédération internationale par un Français, Paul Léautey, en France, à Paris, en 1924. Et donc 100 ans aussi d'histoire pour cette Fédération internationale. Et dès 1928, le hockey sur gazon fera toutes les Olympiades. Jusqu'à nos jours, et les femmes feront leur apparition au programme olympique en hockey sur gazon à partir de 1980, sachant que malgré l'histoire, on voit qu'il y a une différence entre l'intégration masculine et l'intégration féminine, mais le hockey est un des sports qui a l'inclusivité et la parité dans ses valeurs profondes, et qu'on retrouve aujourd'hui même 49% de participation masculine à l'échelle de la planète, pour 51% de participation féminine. Alors ça varie d'un pays à l'autre, mais on a vraiment l'inclusivité et l'histoire olympique au cœur du hockey sur gazon.
Alors je profite du fait que tu parles des femmes pour souligner la première participation de l'équipe de France féminine, mais il y a aussi l'équipe de France masculine. Où est-ce qu'elles se situent, ces équipes, au niveau mondial dans le hockey ?
Alors, l'équipe masculine est classée actuellement 9e mondiale. Le fait est qu'on ne les a pas vus aux Jeux Olympiques depuis plus de 50 ans.
Et j'imagine qu'il y a des quotas continentaux, qu'il y a des quotas pour l'Europe, donc être 9e, c'est pas forcément bon signe.
C'est aussi parce qu'on est entouré des places fortes et des pays européens qui trustent un peu les podiums et le classement mondial, et donc du coup qui créent un peu plus de difficultés pour cette équipe à se qualifier. Toujours est-il qu'ils ont la capacité de pouvoir affronter les meilleures équipes. On le voit de par les résultats récents pour les hommes sur la compétition, et pour les femmes, ce sera la première fois qu'elles participeront aux Jeux Olympiques. Imaginez l'histoire, dans leur pays, première participation olympique et représenter leur sport. Elles sont actuellement 20e mondiale. Ça va être une super expérience pour elles, comme pour les joueurs de l'équipe de France. Ça va être fabuleux.
On arrive au bout du podcast et ça va être la dernière série de questions, chers invités. Et je commence par toi, Antoine. Qu'est-ce que tu attends des Jeux pour la discipline, pour le hockey ?
Alors moi, j'attends que les gens découvrent ce sport qui est malheureusement un peu méconnu en France, alors qu'il est très connu à travers le monde. Aujourd'hui, en France, on a entre 12 et 15 000 licenciés pour cette discipline. Et j'espère que les plus de 320 000 spectateurs qui vont venir supporter les différentes équipes vont découvrir ce sport, potentiellement créer des vocations, et que les clubs à travers la France puissent accueillir des nouveaux licenciés et que la discipline se développe. Je pense que ce serait la plus grosse réussite de cet événement de hockey sur gazon dans le cadre de Paris 2024. Et enfin, que les gens vivent une expérience extraordinaire au stade Yves du Manoir, qu'on puisse ressentir à la fois l'atmosphère du passé, ce côté mythique et historique du site, mais aussi qu'on ressente tout le travail sur l'héritage qu'on est en train de porter au quotidien avec l'ensemble des équipes.
Et l'ensemble des volontaires. Merci beaucoup, Antoine. Eric, un message pour les volontaires et également pour toutes celles et ceux qui vont venir au jeu que tu n'as jamais dit ailleurs, quelque chose d'inédit pour le programme des volontaires dans ce podcast.
En 2000, lors des Jeux Olympiques qui se sont déroulés notamment à Sydney, j'ai eu le grand privilège de travailler plusieurs mois, notamment au camp de la jeunesse olympique. Et là, en fait, j'ai fait la connaissance d'un nombre incroyable de personnes, de femmes, d'hommes, de nationalités différentes. Et ce qui est très incroyable, lorsque je me déplace un peu partout dans le monde, je recroise ces personnes et à chaque fois, tu te rappelles quel chouette moment nous avons vécu ensemble.
Le souvenir, en effet. Julie, c'est la première fois que l'équipe de France féminine se qualifie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis, qu'est-ce que tu as à dire à ces volontaires qui t'ont rencontré et qui nous écoutent?
Pour l'équipe de France, c'est une opportunité incroyable. On a eu l'occasion de parler avec le coach, avec une des joueuses. Elle voit ça comme une super opportunité de jouer contre des équipes très très fortes. Elles vont pouvoir aussi découvrir de nouvelles façons de s'entraîner, etc. Et donc pour les volontaires, on a passé de super moments. Ils sont tous très motivés, ils sont tous très contents d'avoir pu participer à cette activité test. Ils ont hâte d'être au jeu, vraiment. Ils ont pu tous nous rencontrer, ils ont mis des visages sur les personnes avec qui ils communiquent. Et ça va être une aventure incroyable qu'on va partager tous ensemble.
Une aventure humaine, comme on vous l'a souvent dit. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Eric, merci beaucoup Julie. Quant à vous qui nous écoutez, rendez-vous au 24e épisode qui sera diffusé à la toute veille des Jeux. À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.